Bonjour à tous et bienvenue pour ce YouTube Live du Centre des professions financières, du Club du Haut-de-Bilan et du Club des jeunes financiers. Donc ce matin, on a un programme assez chargé sur un sujet assez sensible, puisqu'on va parler NFT et métaverse, et donc, plus globalement la blockchain, les cryptoactifs qui sont dans une actualité un peu sévère, si je puis dire, actuellement. Et donc, sur des sujets que beaucoup d'entre nous ont encore du mal à comprendre. Donc, on va faire le point avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Juste un mot déjà sur le Centre des professions financières. Donc, c'est une association d'intérêt général qui a été créée en 1957, qui est composée de plusieurs clubs de professionnels de la finance qui organisent, donc, comme ce matin, des visioconférences, des réunions en présentiel. Je vous donnerai à la fin de ce YouTube Live les prochains événements pour comprendre et mieux comprendre la finance. Voilà. Alors, je précise donc, comme je l'ai dit au début, qu'on a organisé cette émission YouTube donc avec Financia Business School et le Club des jeunes financiers. Donc, je remercie comme d'habitude l'équipe qui est en régie, si je puis dire, au Centre des professions financières, donc Hugo, Astrid, Audrey et Catherine Chevassu, donc la déléguée générale du Centre. Alors, on va démarrer et rentrer en vif du sujet. Je précise que vous pourrez poser des questions et on tâchera d'y répondre. Nos invités ce matin, donc honneur aux dames. Donc déjà, nous avons Maître Karima Alashgar, donc qui est avocate associée chez Osborne Clark, pardon, et qui a d'ailleurs piloté l'agrément de la première SGP, société de gestion, pouvant gérer des fonds investis en actifs numériques. Nous avons Alfonso Lopez de Castro, président de Financia Business School, pardon, donc il va un petit peu co-animer ce YouTube Live avec moi et qui est également directeur corporate de la financière d'USES. Nous avons Nicolas Frattini, donc, qui est le cofondateur des agences de papa et qui, donc agence immobilière, et qui a un projet dans le métaverse qui s'appelle Versity. Et également, c'est sûrement Agence de Papa, un nom que vous avez entendu, puisqu'il y a eu une campagne télévisée, Nicolas, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait un certain Teddy Riner, on va dire, qui est l'ambassadeur des Agences de Papa. Je vais y arriver. Et puis donc, Adrien Hubert, lui qui est CFO chez SmartChain. Adrien est dans l'écosystème blockchain, donc est totalement immergé dans ce sujet depuis 5 ans et était avant dans le milieu bancaire. Et donc, pour ma part, je suis donc président du Club du Haut-de-Bilan, administrateur du centre et titre professionnel associé de Calao Finance, société de private equity. Voilà. Alors, comme vous avez sûrement vu il y a quelques semaines au mois de mai, les métaverses, les NFT, les cryptoactifs et tout ça, ça bouge beaucoup. Donc, Alfonso Lopez de Castro, si tu peux nous faire un petit point sur la situation.
Bien sûr, merci beaucoup Eric. C'est vrai que on entend énormément parler et donc c'était l'occasion de faire un point avec nos experts qui vont nous guider dans ce monde très large. Et peut-être je fais un petit clin d'œil au club des jeunes financiers puisque c'est vrai que des fois il y a un peu une rupture technologique, entre autres, mais peut-être aussi une rupture, j'irais, générationnelle, puisqu'on voit bien que certains jeunes, le Bitcoin a déjà son âge, et certains jeunes pratiquent, utilisent ou investissent dans les cryptos. Hein. Et puis finalement, la métaverse, qu'est-ce que c'est la métaverse ? En réalité, la métaverse, d'une certaine manière, elle existait déjà. Et où est-ce qu'elle était très développée ? C'était dans le gaming. C'est pour ça qu'il y a des générations de jeunes, en fait, qui sont très habituées à ça. Donc, c'est comme un monde virtuel ou presque, on va dire, un monde parallèle. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement, c'est un nouveau canal de distribution. Hein, on voit que le marché du luxe, entre autres, ou la distribution au sens général l'utilise, la formation, l'immobilier, bref, ça touche tous les secteurs et finalement, voilà, c'est un nouveau canal de distribution, une nouvelle chance de faire découvrir des nouveaux mondes, entre autres, des nouveaux produits. Voilà. Alors, métaverse, blockchain, c'est la technologie. Bon, ça, on le connaît. Adrien Hubert qui a énormément de techniciens, d'ingénieurs, peut-être nous parlera un petit moment sur la blockchain, mais surtout, on utilise énormément, on entend parler de NFT. Et surtout, ce qui peut être étonnant, c'est qu'on parle d'art, entre autres, on parle de spéculation. Alors, un NFT, c'est un non-fungible token. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un token qui est identifié à une personne, voilà, et donc qui est garanti par une technologie et qu'on peut transmettre ou échanger ou céder. Bon. À partir de là, comme dans toute l'histoire, j'irais, de l'économie, dès qu'on peut échanger un bien, on peut du coup spéculer sur lui. Voilà. Alors, vous avez tous entendu parler de cette photo du singe qui a pris une certaine valeur, voire même le premier tweet de Twitter qui a été vendu très très cher, puis finalement un peu moins cher. Et ça nous rappelle tout simplement la spéculation qu'on peut connaître sur le marché, je dirais, de l'art traditionnel. À la seule différence, c'est que ce NFT peut être rattaché donc à une image, mais aussi à des droits, à des avantages ou entre autres à des obligations. Donc naturellement, il peut être beaucoup plus complexe qu'un simple tableau qu'on aurait effectivement chez soi. Donc tout ça mélangé, ce monde virtuel, et en tout cas qui peut être un monde parallèle hein, à ces images, à ce droit, amène un nouveau business. Et comme dans tous les mondes, il y a aussi, je dirais, des règles juridiques. Et Karima Ajga, un grand spécialiste sur ce domaine, pourra vraiment nous éclairer sur ce point, puisque quand souvent la technologie avance, elle avance un peu plus rapide que peut l'être le législateur. Mais je parlais de monde métaverse et de monde, entre autres, parallèle, et on pourra, je pense, le confirmer, que beaucoup de bases de droit sont parallèles au droit, je dirais, traditionnel. On vient rechercher un parallélisme ou en tout cas des similitudes. Et puis, on a la chance ici d'avoir, pour entrer de manière un peu plus profonde, on a un cas excessivement concret, puisque Nicolas Frattini, l'agence de Papas, sont la première société cotée sur Access Plus qui lance une ICO. Et puis surtout une métaverse dans l'immobilier basée sur le réel. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on se posait tous des questions. Pourquoi aller acheter un terrain virtuel? Hein, il y a différentes propositions sur ce point-là. On avait des grandes stars américaines acheter des villas virtuelles. Et ben en France, on va pouvoir poser des questions. En tout cas, on va pouvoir nous expliquer. D'aller sur le métaverse, que j'appellerais plutôt moi-même réel, parce que basé sur des biens. Voilà. Donc j'espère que cette conférence pourra vous passionner.
Merci Alfonso. Mais alors, petite question, donc avec les mouvements qu'on a connus, puisque tu suis ça près là, au mois de mai sur le Terra, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors,
C'est quoi ton point de vue? Bon, à la fois pour ceux, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas très bien le fond de l'affaire. Donc, en voyant ça, attends, voilà, ils se disent, bah, j'avais raison. Est-ce que c'est un assainissement, c'est une pause, c'est la fin, c'est quoi le truc? Enfin, genre.
Alors déjà, bon, il existe, là on va parler plutôt de spéculation, hein. Et quand on parle de parallèle, bon, il nous est arrivé aussi d'avoir dans le monde des actions, où par exemple, là plutôt, faudrait comparer ça plutôt à un produit structuré, d'avoir des évolutions de marché qui fait que, effectivement, le produit structuré, par exemple, ne vaut plus rien. Voilà. Alors, on a des mouvements, il faut premièrement rappeler. Et d'ailleurs, un message aussi pour nos jeunes, c'est que l'investissement, j'irai en crypto, est un investissement risqué. Alors, pourquoi il est risqué? Parce que tout simplement, il est amené à une volatilité qui est excessivement forte. Voilà. Ces cryptos sont souvent basés derrière une technologie. Si la technologie fonctionne, sa valeur peut être très très importante. Si la technologie ne fonctionne pas, bah, sa valeur peut quasiment disparaître. Et on a un parallèle sur les produits structurés, qui sont des produits, je pense qu'il peut parler plus à notre public, produits complexes, un montage. Et s'il n'est pas bien conçu, ou en tout cas, il y a des fortes variations sur les sous-jacents des produits, il peut qu'il vienne effectivement baisser. Alors, concernant le Terra et entre autres le stablecoin. Alors, on a, comme il y a une énorme volatilité, il y a des produits qui ont connu un très grand succès, voilà, qui sont des produits, comme son nom l'indique, stablecoin, donc qui permettent de stabiliser finalement sa crypto, donc sa monnaie crypto, entre autres, et ne pas subir de variations et la stabiliser par rapport à une devise, hein, par rapport au dollar, entre autres à l'euro. Donc, ce produit a été attaqué. Alors, on ne sait pas par qui. Bon, on a quelques doutes, mais effectivement, vous imaginez que c'est un très, très gros marché qui a des très fortes puissances. Et c'était une monnaie qui était très par un algorithme. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, va être difficile de recréer de la confiance pour revenir sur un stablecoin, géré entre autres par un algorithme. Voilà. Après, c'est vrai que y a la presse un peu sensationnelle, comme il y a une grande volatilité, certains disent attention, les cryptos, ça ne vaut plus rien. Bon, je vous rappelle que malgré la baisse de ces dernières semaines, le Bitcoin est autour de 28 000 $. Donc on est quand même sur des niveaux par rapport à il y a un an, ou même 2-3 ans, là je ne vous parle même pas, qui restent encore excessivement élevés. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas sur ces cryptos une visibilité incroyable, il y a beaucoup de flux, ça reste des investissements jeunes, donc risqués, donc très, très, entre autres, volatiles. Voilà. Néanmoins, ce ne sont pas des investissements qui sont en tout cas excessivement intéressants. Je pense à une monnaie, par exemple, comme l'Ethereum, qui est en fait une technologie extrêmement utilisée, celle qui est le plus utilisée, entre autres, dans le monde des NFT, entre autres de la métaverse, dans lequel nous pensons que sur le long terme, ça paraît un actif, entre autres, intéressant. Donc, j'irais pour conclure sur ce point-là, attention, les cryptos, souvent, il y a des technologies qui sont complexes derrière. Donc, il ne suffit pas de simplement lire la presse un peu spécialisée et d'acheter ça, comme par exemple, quand il y a eu des grands booms en bourse, où finalement, tout le monde se croyait un peu sorcier, divin, et chaque société, il y avait un emballement dessus, un rush. Alors, pour parler un peu monde jeune et crypto, c'est ce qu'on va appeler la hype, hein, entre autres. Donc, on va créer des monnaies dans lesquelles il y a un engouement médiatique et on va investir. Donc, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut comprendre quelle est la technologie qui est derrière. Donc, voilà, donc c'est des actifs intéressants, mais risqués et très volatiles.
Ok, alors bon, merci Alfonso. Donc, on va peut-être parler maintenant des business models de ce nouvel univers, qu'est-ce qui se fait. Donc, Adrien, je te passe la parole.
Merci Eric. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors peut-être avant de commencer pour parler des business models, peut-être introduire un tout petit peu ce qu'est la blockchain, ce qu'est cette technologie, à quoi elle sert, comment elle marche et comment peut naître à partir de la blockchain des cas d'usage. Et le NFT est un des cas d'usage de la blockchain. Et donc, le fait de commencer par deux convictions qu'on a chez SmartChain, la première conviction, c'est que le fait d'échanger de la valeur technologiquement, ça va radicalement se transformer. Et donc, il va y avoir une façon d'échanger de la valeur qui va passer du monde traditionnel avec les plateformes d'infrastructures traditionnelles au monde blockchain. Et donc, ce transfert d'usage sur l'échange de valeur, il est en train d'arriver, il est en train de se déployer. Il est assez rapide en termes de déploiement, mais la technologie n'était pas tout à fait mature pour avoir l'ensemble des transactions et les supporter. Et donc, la première conviction, c'est qu'il va y avoir un transfert massif en termes d'utilisation technologique des technologies non blockchain aux technologies blockchain. Et le NFT, c'est l'un des cas d'usage qui est en train d'émerger. La deuxième conviction, c'est que les entreprises vont non seulement utiliser la blockchain pour échanger de la valeur, mais elles vont également se baser sur les technologies blockchain pour d'autres cas d'usage. Donc là, je pense à la gouvernance, avec ce qu'on appelle les DAO, les organisations décentralisées. Je pense évidemment à la partie transparence pour des cas d'usage de certification. Je pense évidemment à la partie NFT pour essayer de tokeniser, essayer de mettre sur blockchain des choses qui sont dans le monde réel unique. Et en fait, c'est ça le NFT, c'est essayer de rendre dans le monde de blockchain, qui est un monde de données, un monde de base de données, une information qui est unique. Et donc, on lui apporte de la donnée unique qu'on met dans un token. Et c'est là que naît le NFT. Et donc, le fait d'avoir ces technologies, qui ne sont pas que des bases de données, sont aussi des bases de données avec un protocole, un moteur avec des règles, une gouvernance, une communauté, ça permet de créer de nouveaux business models, de nouveaux modèles économiques, qui sont des modèles économiques qui sont plus seulement sur des organisations centralisées, mais avec des incentives qui sont là pour récompenser la communauté, par exemple, qui sont là pour mettre des mécanismes qui vont valoriser un token en fonction de l'utilisation de tel ou tel mécanisme sur la blockchain. Et donc, ces nouveaux business models sont des cas d'usage qui sont assez nouveaux, parce qu'on avait besoin d'une maturation de la technologie pour qu'ils naissent. Et les NFT, le principe même des NFT, il a 3 ans, par exemple, en termes de donc, c'est une technologie qui est assez récente en termes de déploiement. Donc, il est tout à fait certain que la majorité des cas d'usage autour de la blockchain et autour des nouveaux modèles économiques à construire ne sont pas encore nés. Donc, ça, c'est intéressant et important de le comprendre. Puis on peut donner 2-3 exemples de nouveaux cas d'usage qui sont extrêmement intéressants, qui sont nés à partir des business models. Le premier, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Donc, la finance décentralisée, c'est quoi? C'est les mêmes principes que la finance traditionnelle, mais dans un monde décentralisé. Donc, l'un des exemples les plus connus que je vais rapidement aborder, c'est les exchanges décentralisés avec les pools de liquidité. Donc, c'est le principe de comment faire en sorte d'avoir de la liquidité sur des actifs et d'échanger de la valeur de façon décentralisée. Parce que dans le monde traditionnel, il y a ou une plateforme qui centralise l'offre avec des propositions d'achat et de vente, avec un carnet d'ordre, et donc ça centralise cette offre, ou alors des personnes qui centralisent de la liquidité et qui font le market maker. Ben, dans le monde décentralisé, il y a une invention qui s'appelle la pool de liquidité qui permet à tout à chacun de devenir le market maker en apportant de la liquidité sur 2 actifs et en jouant ce rôle d'apporteur de liquidité et en étant récompensé à chaque transaction sur cette pool de liquidité. Et donc, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver dans la blockchain, c'est qu'on est en train de reprendre des idées du monde financier traditionnel et on essaie de répliquer ces nouveaux mécanismes avec une plateforme décentralisée, chacun a un rôle. Et donc, le deuxième mécanisme, qui est peut-être le plus simple à expliquer et qui est notre gros sujet du jour, c'est la partie NFT. Et donc, l'idée, c'était comment on peut en... Dans un petit écho, peut-être, je ne sais pas si c'était... Donc, la partie NFT, c'était comment on réplique dans le monde blockchain, qui est une base de données, dans le monde numérique, de l'information qui est unique. Donc, c'est là où est né l'objet NFT. Et le but de l'objet NFT, c'est que comme ce sont des collections de NFT qui sont non fongibles, donc qui ne sont pas pareilles, on peut y mettre des mécanismes pour qu'à chaque fois qu'il y a une transaction sur ce NFT, sur le marché secondaire, lorsqu'il est vendu, il y a des fees, une partie des frais de cette vente qui soit collectée pour celui qui a créé pour le porteur de projet ou pour celui qui a créé le NFT. Et donc, en fait, il y a tout un enjeu de répartition de la valeur avec les mécanismes qu'on peut mettre technologiquement sur le sous-jacent. Ça, c'est très important. Et le dernier moyen, qui est le moyen qu'on va pas forcément avoir le temps d'aborder en profondeur, mais qui est très intéressant, c'est qu'avoir un token ou avoir un NFT, c'est aussi avoir un pouvoir de donner un vote et donner un avis sur un protocole, sur une blockchain ou même sur un projet. Donc, beaucoup de tokens, beaucoup de NFT, ont également un rôle de gouvernance sur les différents projets. Donc ça, c'est des mécanismes qui créent, encore une fois, de nouveaux modèles économiques où le token ou le NFT n'est plus que l'agrégat de la valeur d'une œuvre d'art, n'est plus que l'agrégat de la valeur d'un token d'utilité qui sert à quelque chose, un bien ou un service, mais il agrège différentes valeurs qui sont financières et non financières. Et c'est en ça que le NFT est un objet un peu unique.
D'accord. Alors, je reviens sur l'exemple du... Tu as parlé d'un, Alfonso, d'un singe, ça, d'une image, enfin, d'un NFT. Est-ce que c'est... Parce que j'ai lu quelque chose là-dessus, ou celui qui l'avait créé se l'est fait voler? C'est le même sujet ou pas?
Non, c'est, là, Alfonso mentionnait une collection de NFT, les Bored Ape, qui a eu plusieurs déclinaisons et qui est considérée comme la collection la plus valorisée dans l'écosystème NFT. Et sur lequel la société qui a émis cette collection de NFT a fait une levée de fonds de plusieurs centaines de millions pour faire également un métaverse autour de cet univers. Et donc, c'est, voilà, c'est l'un des emblèmes de la réussite et de la spéculation des NFT, parce que maintenant, avoir un singe, un Bored Ape, c'est comme avoir une place dans un club ou avoir une voiture de luxe. C'est un symbole social. C'est, ça que c'est en ça que c'est extrêmement intéressant et que ça n'agrège pas que la valeur de goût, la valeur artistique de l'image, mais bien plus que cela.
Alors, pour qu'on comprenne, hein, pour les personnes âgées comme moi, si je puis dire, donc, ce fameux NFT là, dont tu parles, il y en a plusieurs, c'est ça? Il y avait toute une série?
Tout à fait.
Une collection. Donc, il y a une personne qui en possède un autre, hein, etc. Et c'est un dessin, c'est une photo, hein, qui est uniquement visible dans le enfin, sur l'écran d'ordinateur.
C'est ça. C'est comme une image. Il faut voir ça comme des voitures avec une série de voitures limitées. Donc, par exemple, 1000 voitures. Donc, certaines ont une couleur différente, certaines ont un moteur différent, certaines ont des caractéristiques dans la voiture qui sont différentes. Et donc, elles sont uniques et en même temps un peu similaires parce qu'elles correspondent à une collection, à une série qui a des caractéristiques. Et donc, la caractéristique de singe.
Et la société qui a créé ces œuvres d'art a levé de l'argent pour donc créer un univers métaverse, c'est ça?
Exactement. La société Yuga Labs qui a levé quelques centaines de millions de dollars il y a quelques mois pour créer un nouveau métaverse au sein de son écosystème.
D'accord. Donc, je pense juste à cet exemple. Hein, pour essayer, voilà. Ce métaverse, donc, il y a un univers où on va se promener, on va dire, de manière virtuelle. Eux, leur business model, on le connaît. C'est donc il y a des centaines de millions de dollars qui sont arrivés pour financer ce métaverse. Ils vont gagner de l'argent comment?
Alors, le business model des métaverses, c'est assez simple. En fait, c'est une place de marché. On peut acheter ou alors on peut acheter des terrains sur le métaverse ou alors on peut acheter des objets sur le métaverse. En fait, il y a un fee, une taxe qui est prélevée lors de la vente ou de ces terrains ou des objets. Et donc, les investisseurs qui investissent en projet pensent que ça va générer beaucoup de taxes. Il va y avoir beaucoup de volume sur ces marketplaces métaverse.
D'accord. Alors, si je le reformule, je vais me promener dans le métaverse un peu comme dans un jeu vidéo. Je vais acheter un terrain virtuel. À quelqu'un, ou alors au départ à la structure, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ensuite, quelqu'un voudra me le racheter, et là, la société en question va prendre un fees, c'est ça?
Exactement, et je pense que Nicolas en parlera quand il développera son cas d'usage. C'est tout à fait ça, il y a un marché primaire où la société vend les terrains, c'est d'ailleurs ce qu'elle a vendu lorsqu'elle a levé des fonds, et ensuite, il y a un marché secondaire où les terrains peuvent se vendre entre eux, en sachant que sur les terrains, on peut créer des choses uniques sur le terrain, et donc en faire devenir, enfin, créer encore plus de valeur, parce que l'unicité de ce qu'on a créé sur le terrain dans le jeu, en jouant par exemple, crée une valeur. Donc, l'exemple très simple pour comprendre, c'est on construit une maison sur le terrain, parce qu'on a acheté des matériaux, la maison s'apprécie, donc le terrain vaut plus cher que la somme des matériaux sur lesquels on a construit pour construire la maison. Donc en fait, ça nourrit également l'écosystème.
Ok. Alors, on va passer à Nicolas, effectivement, pour l'aspect immobilier. Alors, je précise qu'il y a des questions. Alors, je ne sais pas si, Adrien, notamment, tu as vu les questions passer.
Alors, je peux peut-être prendre quelques questions, surtout celles sur le proof of stake avec la preuve d'enjeu, parce que c'est un peu notre
spécialité. Alors, juste un truc. Là, la personne qui pose la question s'y connaît super bien, je pense. Toi aussi. C'est juste de dire les mots... voilà, que tout le monde puisse. Parce que j'ai vu qu'on parlait de Mint, et donc voilà aussi dans les questions, donc pour que tout le monde comprenne.
Alors, pour être très simple, il y a différentes façons de sécuriser une base de données. Il y a la façon de Bitcoin où il faut faire des calculs très compliqués et consommer de l'énergie pour le faire. On appelle la preuve de travail, proof of work. Il y a une deuxième façon qui est ce qu'on appelle le proof of stake, la preuve d'enjeu, où il faut un peu mettre en gage, il faut bloquer une quantité de jetons pour sécuriser le protocole. Ce qu'on appelle le proof of stake, la preuve d'enjeu. Et alors, ce qui est, la question qui est posée, c'est en pratique, la preuve d'enjeu, elle minimise la consommation, ce qui est vrai. Il y a une très, très faible consommation des protocoles à preuve d'enjeu. Mais elle risque de favoriser encore plus la prise de contrôle parce que c'est une plutocratie où il faut juste être riche pour faire fonctionner le protocole. Et en fait, la question est très bonne. La réponse est que c'est vrai, mais il y a plusieurs façons de se protéger de ce type d'attaque. Et donc, l'une des protections, c'est de créer de l'inflation sur le réseau, mais de faire en sorte que les plus riches ne sont pas les plus favorisés en termes de pourcentage. Donc, plus on a de tokens, plus on a de revenus, quand on les met en gage, moins en proportion la récompense sera élevée, qui récompense les petits utilisateurs à protéger la blockchain. Donc, en fait, c'est un écosystème tout à fait nouveau en termes de consensus et de protection, où il y a différents types d'attaques qui sont en train d'être expérimentées, et donc les protocoles qui doivent défendre ces attaques. Mais il est certain qu'on est en train d'avoir une tendance où les protocoles blockchain sont en train de tendre vers des protocoles plutôt proof-of-stake parce qu'ils sont beaucoup moins énergivores. Mais il y a encore cette option de si jamais il faut juste avoir des tokens pour protéger la blockchain, il y a un risque que celle le plus riche ait le droit d'avoir un avis qui compte. La question est bonne.
Ok, merci Adrien. Donc je rappelle que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat YouTube que vous avez à droite de votre écran, qu'on essaiera d'y répondre. Voilà. Donc on va passer la parole à Nicolas Fratini, donc des agences de papa, donc là, pour un exemple très concret. Métaverse, mais réel aussi, comme l'a dit Alfonso. Donc,
exactement. Merci Eric, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, on lance un métaverse, mais on est parti d'un constat, d'une problématique métier qu'on a. Donc nous, on est une agence immobilière digitale, donc on travaille en ligne. On a industrialisé tout le process d'une agence immobilière. Donc on prend des commissions très basses, donc 2000 euros, donc 10 fois moins par rapport au prix du marché. Donc, on a toujours pensé, on a mis le focus toujours sur l'efficacité de nos actions. Donc, du coup, on a un constat déjà initial, c'est que pour une vente, on a minimum, en moyenne, 15 visites ou même plus. Donc, pour répondre à cette problématique d'efficacité, on a pensé à utiliser tous les technos existantes, donc de la blockchain et du métaverse, de la modélisation 3D, pour justement améliorer cette efficacité. Donc, du coup, notre projet, c'est de créer un métaverse. Donc, ça sera un environnement 3D persistant et immersif, où on pourra visiter le quartier, visiter d'une façon immersive, visiter l'appartement de la même façon, et surtout interagir en live avec les professionnels de l'habitat et de l'immobilier. Ça va permettre de faire en sorte d'avoir beaucoup plus d'informations et d'aller à la visite réelle, avec toutes les informations possibles, tous les budgets possibles, parce que dans notre vision, je vous fais une petite exemple. Par exemple, on peut visiter un acheteur potentiel, il pourra visiter l'appartement avec son architecte d'intérieur. Donc, il pourra discuter en live de l'agencement, du changement des usages de chaque pièce. Et ça va permettre de définir un budget. Donc, vraiment d'aller sur le projet réel avec des... toutes les informations possibles pour aller beaucoup plus vite. Et ça, pour nous, c'est un vrai cas d'usage et un vrai valeur ajoutée de la technologie existante. Donc, pour un métaverse, il y a un point important, c'est que ce métaverse, il doit être alimenté par une monnaie reposant sur la blockchain. Donc, c'est pour ça qu'on lance, on est en train de lancer une ICO, c'est déjà lancé, donc, mais on vend un jeton utilitaire. Donc, ce jeton utilitaire, il va servir pour acheter des services sur le métaverse. Donc, le premier service de notre métaverse, c'est une location, un achat d'un espace sur le métaverse pour pouvoir proposer le bien à la vente. Donc, c'est en effet, c'est un portail immobilier Web3 et c'est un média de diffusion. On rentre dans l'industrie du classified. Donc, c'est un média de diffusion où on pourra visiter les appartements d'une autre façon. Et ça, c'est quelque chose de innovant, on pense. Et on pense que ça sera le portail immobilier du futur, parce qu'on pourra aussi avoir toutes les informations possibles en temps réel, discuter avec les professionnels de l'immobilier, et on va créer aussi du business pour les professionnels de l'immobilier. Donc, il y aura aussi des activités qui vont se créer en regardant cette technologie. Et donc, ça sera une plateforme ouverte où on va laisser la place aussi à ces personnes qui vont créer une nouvelle activité que peut-être aujourd'hui on n'imagine même pas. Et pour revenir aux NFT, donc on va aussi mettre dans notre métaverse cette technologie. Donc on va tokeniser le territoire d'une façon virtuelle. Donc, un NFT pour nous, ça va être un code postal, mais on ne va pas vendre un code postal réellement. C'est dans notre monde virtuel. Et donc, le propriétaire, le détenteur d'un NFT, dans notre métaverse qui s'appelle Versity, il va s'appeler Parcel. Ben, on va récompenser ce détenteur pour chaque annonce déposée sur sa parcelle. Et ça, donc, on va partager le chiffre d'affaires avec les détenteurs de l'NFT.
Alors, Nicolas, qu'on comprenne bien la première partie, j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un univers style Google, Google Earth, je ne sais pas quoi, pour ensuite accéder à des appartements. Enfin, j'ai vu les projets sur Versity. Donc, il y a quand même là des gens qui vont aller devoir faire des films, des appartements, des maisons. C'est ça, on est bien d'accord?
Il y a différentes façons de faire. Nous, on va proposer de l'autonomie complète avec des applications sur le téléphone où on peut faire le scan de l'appartement ou un accompagnement avec un provider de contenu 3D. Où on peut envoyer un plan, des photos, et notre provider avec des fees très bas, il peut rendre l'appartement en 3D, et nous on va uploader sur notre métaverse. Donc on peut donner plusieurs solutions pour accéder à ce métaverse, ou la troisième solution, c'est aussi de faire déplacer un professionnel pour faire le scan de l'appartement. Donc il y a vraiment, on est open.
Ça, c'est pour ceux qui vendent. On est d'accord. Ça, c'est ceux qui mettent leur bien en vente. Absolument. Et ceux qui vont vouloir, qui sont à la recherche d'une acquisition immobilière, c'est des particuliers, ça va être d'autres opérateurs. Eux vont payer quelque chose?
Non. Ils ont accès libre aux appartements, donc pour pouvoir justement visiter comme un portail immobilier classique. Donc, ils vont faire leur recherche avec leurs critères, ils pourront visiter, mais en même temps, ils pourront discuter avec les professionnels de l'habitat pour justement avoir plus d'informations possibles.
Et quand tu appelles les professionnels de l'habitat, c'est des gens du bâtiment?
Ouais, parce qu'il y a un architecte d'intérieur, il y a un assureur, il y a un courtier en crédit IMO, il y a un déménageur. Il y a beaucoup de professions qui vont être intéressées à cette technologie, ce portail. Forcément, il y aura des besoins différents. Donc, un acheteur, il a peut-être un besoin différent qu'un autre. C'est pour ça que je dis le professionnel de l'habitat, parce que c'est très large. Donc, nous, on veut donner la place et l'opportunité à tous les professionnels de l'habitat, pas que de l'immobilier.
D'accord. Et on va dire, entre guillemets, dernière question. Là où, par contre, je n'ai pas tout compris, donc il y a une ICO, donc ça, donc une augmentation de capital en coin. Mais tu lui as parlé de parcelle.
Pardon ? Ce n'est pas une augmentation de capital, c'est une vente de jetons utilitaires. Donc, on vend des services qui vont proposer, on vend des jetons qui vont être utilisés pour acheter des services dans notre monde virtuel, dans notre métaverse.
D'accord. Ouais, donc, concrètement, moi, j'achète un jeton. Tu as parlé de parcelle.
Notre jeton, c'est le City. Okay. Et la parcelle, c'est le NFT, que c'est lié au code postal. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, avec le City, on peut acheter des services. Par exemple, on peut acheter le droit de diffuser mon bien sur une parcelle. Et la parcelle, c'est le droit de propriété, c'est le NFT du code postal. Donc, le détenteur de l'NFT, du parcelle, il aura les droits de ce qui se passe sur ce territoire, dans notre métaverse, bien sûr.
D'accord. Okay. Donc, ce territoire couvrira la France ?
Donc, pour l'instant, on va ouvrir la France, parce que nous, on est une agence immobilière digitale basée en France. Donc, c'est notre premier marché. Donc, les parcelles, les NFT, ils vont être créés avec les codes postaux français, mais c'est clair que on a un enjeu, on a une envie aussi d'aller plus loin, mais c'est notre preuve de concept, c'est vraiment la France, donc on y tient et on met toute notre force pour réussir en France.
D'accord, merci Nicolas. On a une question là sur les métavers, c'est les MMORPG, donc je pense que c'est les jeux massivement multijoueurs, enfin je pense. Où on nous dit, bon voilà, parce que finalement, c'est pas déjà des métaverses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas.
Y a plusieurs métaverses. Les métaverses sont une déclinaison des jeux. Et toute la technologie 3D existante, ça vient des jeux vidéo. Donc, les deux moteurs 3D les plus utilisés dans le monde, les plus répandus, c'est des moteurs créés pour des jeux vidéo. Et les professionnels de l'habitat et de l'immobilier, ils utilisent ces moteurs 3D justement pour des besoins métiers. Mais c'est clair que les jeux vidéo, c'est le départ de cette technologie et ça a aidé énormément à l'évolution de cette industrie.
Okay. Donc c'est un peu un prolongement, quoi.
Absolument.
Alors, maintenant, on va venir aux choses sérieuses, si je puis dire, avec Karima. On va parler un peu juridique, puisqu'il y a des choses virtuelles, donc, mais qui ont des conséquences dans le réel. Donc, Karima, je te passe la parole.
Absolument. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Merci en particulier à Eric et à Alfonso. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la même manière qu'on a une sorte de brouhaha autour des utilités, des usages, des modèles d'affaires NFT, on a également une sorte de brouhaha autour des enjeux juridiques et pas seulement des questions de risques juridiques, mais aussi des opportunités parce qu'on peut aussi avoir dans le domaine juridique un certain nombre d'opportunités. Donc, si je dois donner en quelques minutes, je dirais, un premier aperçu des questions et des réflexions juridiques qui se posent autour des NFT, moi, je les positionnerais à deux niveaux. On a un premier niveau de débat juridique autour, je dirais, presque de la sémantique et de la qualification juridique de ce qu'est un NFT. Parce que aujourd'hui, en droit français, même si de mon point de vue et de celui de mes confrères et des professeurs de droit, il est parfaitement légal de réaliser, par exemple, une émission de NFT, même sous forme d'ailleurs d'ICO, on pourrait l'envisager. On a une sorte de flou juridique, ou presque, je dirais même, de vide juridique, parce qu'on ne sait pas si le NFT, donc ce jeton non fongible, appartient à la catégorie sui generis des actifs numériques. Je vous rappelle que les actifs numériques, c'est une catégorie de biens incorporels inscrits dans une blockchain et que ça a été effectivement expressément légalisé par la loi PACTE, la loi de 2019. Donc, on ne sait pas aujourd'hui en droit français si le NFT est une sous-catégorie des actifs numériques qui donnerait divers droits sur lesquels je vais revenir, ou si c'est un objet encore à part. Ce que certains de mes confrères soutiennent, j'avoue que je suis un peu circonspect, mais certains de mes confrères effectivement indiquent que les NFT ne relèvent pas de la catégorie des actifs numériques et s'apparentent plutôt en des certificats. Mais pour moi, ça reste un bien incorporel et la manière dont les actifs numériques sont définis par la loi PACTE est tellement large que de mon point de vue, ça couvre toute nature de bien incorporel, qu'elle donne des droits ou non, dès lors que c'est inscrit dans une blockchain. Donc, comme il n'y a pas de clarification sur le plan du droit positif, en tout cas en France, et c'est d'ailleurs le cas dans de nombreuses juridictions, se pose par capillarité la question de la fiscalité aussi attachée à ces NFT. La question qui a été en débat, notamment dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances de l'année dernière, c'était de savoir si on allait rattacher les NFT à la fiscalité justement des actifs numériques, des œuvres d'art, ou si on allait au cas par cas mener une analyse fiscale pour regarder le sous-jacent éventuel du NFT et lui appliquer la fiscalité qui porte sur le sous-jacent, tout simplement. Donc, ça, c'est en droit français. Heureusement, en droit européen, on a un début de réponse puisqu'on a un projet de règlement sur les cryptoactifs, donc le règlement MiCA, qui vient justement nous dire la chose suivante. À date, en tout cas dans les préambules et dans les articles de ce projet de règlement qui est en cours d'adoption finale par le Parlement européen et le Conseil ECOFIN, on nous dit que les NFT sont certes une catégorie de crypto-actifs, mais comme ce sont effectivement des biens corporels inscrits en blockchain qui sont non fongibles et non fractionnables, et que par ailleurs, ils peuvent effectivement être représentatifs d'un certificat d'authenticité sur un bien qui est lui-même soit numérique, soit un bien physique, donc dans le monde réel, ou alors ça représente des droits sur un programme que l'acquéreur peut faire valoir sur un programme de fidélité, ou alors c'est par exemple des droits sur, enfin c'est un certificat, une garantie produit, ou des droits sur des biens très particuliers. En tout cas, ça doit être par nature non substituable, non fongible. Alors ça sortirait de la réglementation européenne MiCAR et donc des obligations qui s'imposent aux émetteurs qui veulent proposer des NFT. Donc, qui n'auront pas, par exemple, à produire ce qu'on appelle un white paper, à se conformer à certaines exigences de règles d'organisationnelles, règles de bonne conduite. Et a priori, ça ne viendrait pas aussi impacter ce qu'on appelle les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques, qui pourraient, donc tout à chacun pourrait librement proposer des services sur NFT, puisque le NFT, on nous dit, le législateur européen nous dit qu'à date, il n'est pas inclus dans le champ de la réglementation MiCA, sauf, et c'est là où ça devient intéressant et ça complexifie la réflexion juridique, sauf si le NFT, et on en revient d'ailleurs au thème de la discussion d'aujourd'hui, est proposé à des fins spéculatives. Donc, le terme exact, c'est « investment purposes », voire propose des droits qui sont très proches des caractéristiques d'un instrument financier, c'est-à-dire un droit au capital, un droit au dividende, un droit de vote concernant la vie de la société, à la différence du droit de gouvernance dont a parlé Adrien précédemment, qui est plutôt une gouvernance sur un projet, sur une marketplace, sur le développement de nouvelles fonctionnalités, nouvelles utilités. Donc ça, c'est, je dirais, le premier niveau de débat, effectivement, la question de savoir qu'est-ce qu'un NFT, quelle est la qualification juridique et à quel régime spécifique ou non il relève, puisque effectivement, à supposer que le NFT sorte, et ce sera le cas a priori une fois que le règlement MiCA sera adopté, sorte du droit spécifique des actifs numériques, pour autant, il relève bien du droit commun. Et si vous voulez bien, Hugo, projeter le petit PowerPoint, la petite slide que j'ai préparée justement pour évoquer quelques sujets d'impact, sujets juridiques qui se posent quand on structure un projet NFT, et c'est, je dirais presque le deuxième niveau de débat et de réflexion juridique. À partir du moment où on dit « c'est pas le droit spécifique des actifs numériques, c'est le droit commun », eh bien, on va finalement, quand on structure un projet, devoir traiter des questions classiques de droit des obligations, donc dans le contrat d'acquisition du NFT, effectivement, les obligations de bonne foi, le régime de la responsabilité, de la force majeure, les questions de droit de la consommation, ça on oublie, et attention à la DGCCRF, qui va commencer vraiment à s'intéresser, à mon avis, au métaverse et à la manière effectivement dont les droits des consommateurs, puisqu'on est sur des usages à peu près, enfin B2C pour l'essentiel, donc on va s'intéresser effectivement à la protection des droits du consommateur, notamment en particulier l'obligation d'information et le droit de rétractation de 14 jours. Il y a aussi des questions qui sont très structurantes autour de la propriété intellectuelle, puisqu'il y a beaucoup de NFT qui sont vendus effectivement comme des biens numériques, des œuvres d'art. Et donc, quand on est une société émettrice, on fait travailler différents contributeurs, il faut veiller à structurer, la création, l'œuvre collective d'un point de vue de la propriété intellectuelle pour éviter les actions en revendication des équipes qui ont participé à la création de ces NFT. Parce qu'on le voit bien, un NFT peut valoir un jour un chiffre raisonnable et atteindre des sommets, et ça peut susciter effectivement les velléités des équipes qui ont participé au projet de réclamer un droit de propriété sur le NFT. Il y a aussi des questions naturellement de droit financier, puisqu'on en revient à la nature potentiellement spéculative de la commercialisation des NFT. Donc, la question qui va se poser, indépendamment de l'exclusion du champ du règlement MiCA, c'est la question de savoir si la manière dont est commercialisé le NFT, c'est-à-dire avec une perspective de rendement financier, pourrait faire tomber le NFT et celui qui le commercialise dans un régime franco-français qu'on appelle l'intermédiation en biens divers, et qui est extrêmement lourd, en fait, parce que ça oblige l'intermédiaire, potentiellement l'émetteur même, selon l'interprétation qu'on peut faire du régime de l'intermédiation en biens divers, à proposer un prospectus, à le faire valider par l'AMF, autant dire que on n'a pas du tout envie de tomber dans ce régime de l'intermédiation en biens divers ou un régime similaire dans une autre juridiction du monde. Donc, il faut faire très attention, effectivement, aux caractéristiques des droits qu'on attache au NFT. Et enfin, effectivement, il y a d'autres problématiques classiques du droit des sociétés quand on est un émetteur de société commerciale qui émet un NFT, de même que le droit du travail. Donc ça, c'est des questions que je vous mentionne comme ça de manière assez synthétique, mais sur lesquelles on travaille avec mes associés sur les différents projets NFT qu'on est en train de structurer. Et puis aussi, ce qui me paraît intéressant de mentionner, sur la partie NFT, œuvres d'art et NFT, question de droit de la propriété intellectuelle, droit des marques, c'est les premiers cas de contentieux qui apparaissent. Hugo, si vous voulez bien passer la slide suivante, vous avez peut-être entendu parler du Meta Birkin. En fait, la société Hermès a lancé une action contentieuse auprès des juridictions américaines contre les porteurs du projet Meta Birkin. hein, donc qui propose la commercialisation de NFT hein, sous forme de sac à main Birkin. Et donc, le fondement de cette action pour Hermès, c'est celui de la propriété intellectuelle et plus spécifiquement du droit d'auteur, du droit des marques. Tout l'enjeu juridique autour de ça, c'est de savoir dans quelle mesure on peut répliquer dans le monde, dans le métaverse, hein, dans le monde virtuel, ce qui se passe dans le monde réel sans risquer effectivement de se retrouver en justice par une société du monde réel qui considère que ce qui est proposé, le produit qui est proposé sur le monde virtuel, porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Là, comme on peut le voir sur la slide, vous voyez que les Meta Birkin, ils présentent de nombreuses similitudes sur la forme, sur les caractéristiques au Birkin de la maison Hermès. Donc, ça va être très intéressant, effectivement, de savoir si l'action en contrefaçon par similitude, par imitation, va être reçue par les juridictions américaines ou pas, parce qu'effectivement, ça va créer un précédent et, à mon avis, potentiellement de nombreux contentieux.
Et Karima, une remarque là-dessus sur le méta Birkin. Alors, si moi, demain, j'avais des compétences pour faire de la peinture et que je fasse un joli tableau avec je peigne un sac Birkin, et puis je le vends, et puis ça se vend très cher, je serais dans ce cas-là?
Alors, effectivement, encore une fois, tout ce qui est objet, produit, normalement, c'est protégé par le droit des marques, des brevets, droit d'auteur. Donc, vous déposez une enveloppe solo. Et effectivement, moi, je ne suis pas une spécialiste du droit des marques, mais si effectivement, la société arrive à démontrer qu'il y a des similitudes entre les signes, entre les produits, et que, en fin de compte, eh bien, il y a une limitation dans les caractéristiques originales essentielles du sac Birkin. Effectivement, vous risquez, Eric, de devoir réparer le préjudice.
D'accord. Mais alors donc,
Si tu veux, je peux amener un petit complément parce que ta question est extrêmement intéressante. En fait, en France, on protège la création artistique. Donc, si demain tu décides de faire un tableau, qui est une œuvre d'art et qui peut comporter, par exemple, des marques bien connues de luxe, hein, que ce soit Louis Vuitton, Hermès, peut-être Cartier, à partir du moment où c'est une œuvre d'art en tant qu'artiste, tu es protégé. Hein. Tu peux utiliser, d'ailleurs, on l'a vu par exemple dans le cinéma, hein, on peut tout à fait utiliser le nom d'une marque parce qu'on est protégé par la création artistique. Là, la question excessivement intéressante, c'est savoir est-ce que ce méta Birkin, en réalité, est une création, est une œuvre d'art et donc est protégé pour protéger l'artiste, ou finalement, est-ce que ce méta Birkin est en réalité plutôt n'est pas une œuvre d'art et donc plutôt un produit et donc une copie, j'irai. Voilà, donc la différence fondamentale est là, c'est qu'on va avoir statué, c'est est-ce que ce sont des créations artistiques, et donc il faut laisser la libre aspiration et l'artiste développer, ou est-ce que c'est plutôt tout simplement en réalité un produit. Voilà, la complexité de la question à partager.
Et ce que je pourrais dire là-dessus aussi, ce que nous, on fait au Osban Clark pour essayer de protéger effectivement les porteurs de projets NFT, c'est dans la mesure du possible, même si c'est quelque chose d'ardu, en tout cas en droit français, c'est de protéger le concept. Nous, on structure un certain nombre de projets NFT en play to earn et play to move. Et effectivement, on accompagne les porteurs de projets pour déposer une enveloppe solo avec le concept. Parce que le concept lui-même pourrait être dupliqué par des concurrents qui veulent profiter, je dirais, de toute l'inventivité qu'il y a aujourd'hui, la matière grise qu'il y a autour des NFT, des projets NFT pour essayer de sortir un projet rapidement. Donc, c'est aussi un point à avoir à l'esprit. Et je vois une question, un commentaire dans une remarque plutôt effectivement tout à fait pertinente de Guillaume Massoud sur les aspects RGPD, data, privacy et cybersécurité à ne pas négliger, évidemment. Mais là, je dirais, c'est propre pour moi à tout projet numérique, à toute plateforme. Mais en effet, la question de la collecte des données personnelles dans le cadre de la commercialisation des NFT et de bien, pour l'émetteur de NFT, cadrer les finalités de traitement. Par exemple, si on prend le projet de Nicolas, hein, finalité de traitement par rapport, d'une part, au city, mais aussi aux parcelles, le fait que les données vont être communiquées à toute la communauté, donc l'agence, l'architecte, le maître d'ouvrage, la décoratrice d'intérieur, tout ça, effectivement, c'est en effet à prendre en compte.
D'accord. Il y avait une question aussi sur le... comment peut-on être sûr qu'un NFT ne peut être dupliqué ou volé ?
Eh ben, il y a toujours ce risque. Enfin, qu'il soit volé, peut-être je vais laisser Adrien éventuellement répondre à cette question plus technique pour moi, mais dupliquer, le risque il est existant, et c'est pour ça que des avocats comme moi, on protège effectivement d'une part la société vis-à-vis de ses contributeurs, hein, ceux qui participent à la création artistique graphique du NFT, hein, pour qu'il n'y ait pas d'action en revendication ultérieure, mais aussi en déposant une enveloppe solo en droit d'auteur, en droit des marques, bien entendu, on protège.
D'accord. Alors, juste avant qu'Adrien réponde sur le point, donc c'est-à-dire que dans le métaverse, il va falloir faire attention aussi aux contrefaçons. C'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui dans le réel, où on a des douaniers, des enquêteurs qui vont aux quatre coins de la planète chercher des faux sacs, des faux trucs, des faux machins, on va voir ça dans le métaverse, d'accord ?
Non seulement dans le métaverse, Eric, mais ce qui est, je trouve, extrêmement intéressant, même du point de vue de la philosophie, c'est qu'une société qui a créé un produit dans le monde réel peut aller rechercher en responsabilité dans le monde virtuel un porteur de projet qui s'est, entre guillemets, contenté de dupliquer le bien réel.
Et donc, il y aura une responsabilité. Je prends l'exemple de Nicolas. Nicolas lance son métaverse. Il va se passer des trucs dans son métaverse. Quelle est sa responsabilité sur des choses illégales ?
Alors, Nicolas, et c'est pour ça qu'il s'accompagne très bien, il a effectivement un certain nombre de responsabilités en tant qu'émetteur des cities, en tant qu'émetteur des parcelles. Il a aussi des responsabilités sur la maintenance de la plateforme, la disponibilité de la plateforme, mais ceux qui vont utiliser la plateforme, eux aussi ont des responsabilités. Hein. C'est un contrat, hein, donc ce sont des obligations réciproques. Et effectivement, plus le contrat, les conditions générales d'utilisation du métaverse de Nicolas et de ses partenaires seront claires, et moins il y aura de sujets. Donc, vraiment première importance d'accorder du temps et un budget suffisant à la structuration juridique du projet. C'est fondamental pour sa viabilité.
C'est clair. Donc, Adrien.
Oui, pour répondre à la question, donc sur la partie vol du NFT, ça c'est la blockchain a des arguments de sécurité parce que pour mouvementer un NFT de compte à compte, il faut la clé privée du compte. Et donc en fait, il suffit de ne pas perdre sa clé privée ou ne pas qu'elle fuite pour ne pas se faire voler le NFT qui nous appartient s'il est sur nos toilettes. Après, il y a toujours des cas où on peut mettre en vente ce NFT, donc on le met en vente sur une plateforme d'échange, une marketplace NFT, et là la marketplace peut être soumise à des bugs ou à des piratages. Mais quand on a le NFT sur son propre portefeuille, il est sécurisé. Peut-être pour répondre à deux autres points et deux autres questions que j'ai vues défiler, sur le fait de faire de la contrefaçon dans les métaverses, on a un argument technique pour protéger les métaverses, parce qu'en fait, on a un contrat, ce qu'on appelle une factory, qui va produire l'ensemble des objets du métaverse. En fait, on peut s'assurer que seule cette factory, ce contrat qui a été émis par la plateforme, va interagir avec le métaverse. Donc ça, c'est une des façons techniques qu'on a de sécuriser le métaverse. Par contre, un des gros risques sur les NFT que l'on a, c'est de faire de la spéculation artificielle. Et donc, l'une des attaques les plus connues, sur lequel il n'y a pas aujourd'hui de réponse satisfaisante, c'est le fait de s'auto-acheter des NFT pour faire monter la valeur. Donc, par exemple, moi, je crée un NFT, je me l'achète à moi-même, donc j'ai une transaction de 1 million par exemple sur ce NFT, et là je le propose en discount, en vente à 50%. Donc la personne pense faire une super affaire, et en fait j'ai juste gagné 500 000. Donc oui. Tout un écosystème qui est naissant, sur lequel il y a beaucoup d'attaques qui sont possibles, comme le fait de modifier des pixels à la marge, le fait de copier des données du monde réel. Et ça, il y a un besoin technologique de maturation, comme par essence, le fait d'avoir plus de données du monde réel pour avoir des vraies interactions entre le monde numérique et le monde physique. Et ça, c'est en train d'arriver et ça va être mature dans les 3 à 5 ans.
D'accord, c'est-à-dire que par rapport comme aux crypto-monnaies là, qui ont chuté récemment, sur ces sujets-là, il y a quand même une part de Far West, c'est mes mots, hein, j'assume, donc extrêmement prudent, puisque là tu viens de donner un exemple où en gros je crée un produit, je dis que je l'ai acheté, je le revends, enfin un truc, voilà. Et que donc c'est un marché émergent où on est en train d'essayer de caler les choses de la vraie vie, parce que sinon ça va être, voilà, parce que là récemment on a vu, enfin c'était pas, pour vous c'est pas un scoop, mais que beaucoup d'adolescents étaient sur les crypto-monnaies, ce qui n'était pas aussi évident que ça, et qu'en fin de compte, là, avec ce qui s'est passé là, sur la chute des crypto-monnaies, ça a créé beaucoup de désespoir quand même. Enfin, certains, voilà, ça les a quand même impactés.
On peut comparer ça à Internet. Hein. Il y avait une bulle Internet avec une spéculation, une valorisation très forte de beaucoup d'acteurs, mais parmi ceux qui sont restés après la bulle, Amazon et Apple sont nés. Donc, il y a un sous-jacent technologique qui est très puissant, sur lequel il y a beaucoup de cas d'usage qui se créent. Beaucoup sont parfois très peu utiles, mais c'est normal et ça favorise l'innovation. Et en fait, essayer de réglementer et d'arrêter ça de façon excessive serait une erreur parce que ça empêche le fait de faire de l'innovation. Par contre, il faut sensibiliser sur ces risques. Donc, il faut trouver le bon niveau entre innovation et responsabilité. Par contre, ce qu'on est certain, et je prends en même temps la question sur le chat, c'est que le token permet d'avoir tout un tas de cas d'usage et d'utilité, que ce soit en termes de liquidité qui est apportée, en termes de justice pour avoir accès à un marché qui est un marché sur lequel tout le monde a les mêmes règles. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on retrouve moins dans la finance traditionnelle. Par contre, le fait d'avoir un marché qui est ouvert avec des règles qui sont les mêmes pour tout le monde, comme il n'y a pas un niveau de maturité assez fort de quelques acteurs, ça peut être des jeunes qui achètent des crypto-monnaies sans comprendre leur fonctionnement, comporte des risques. Il faut trouver le bon niveau entre le fait d'avoir des idées et des talents qui viennent se frotter en Europe pour créer des projets, sans pour autant les surréglementer, mais tout en protégeant le consommateur et l'utilisateur qui parfois ne prend pas acte de la profondeur de certains sujets ou qui a une méconnaissance de comment ça fonctionne. C'est là où c'est compliqué.
C'est très clair. Donc il nous reste une petite dizaine de minutes. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées. On a traité pas mal. Il y en a spécifiquement pour Nicolas. Mais alors, une question d'Anne-Audrey Claude, que je cite, puisque c'est la présidente du club des jeunes financiers, qui donc pose la question, je ne sais pas qui va répondre. Est-ce que le métaverse est compatible avec la technologie BIM? Et si oui, comment cela fonctionne?
Oui, je peux répondre, Eric, bien sûr. Alors, la technologie BIM, pour comprendre ce que c'est, alors tous les promoteurs immobiliers, les architectes, aujourd'hui, travaillent avec cette technologie. Donc, c'est un système de modélisation 3D. Et donc, c'est compatible avec le métaverse. Donc, il y a juste un export à faire sur une extension OBJ et des autres extensions. Et ça, on peut l'intégrer dans un moteur Unity ou Unreal, donc des moteurs 3D. Et donc, on pourra visualiser en live le modèle 3D. Donc, nous, on a fait des tests avec, par exemple, l'aquarium de Valence. On l'a intégré sur le map de Valence et on avait le modèle BIM. On l'a exporté, on l'a importé sur Unity, sur le moteur 3D. Et c'est très rapide et ça marche très bien. Et ça donne vraiment l'aspect réel. Ça dépend vraiment comment c'est conçu, la définition du BIM, comment c'est réalisé. Mais ça donne vraiment une idée de l'espace et on peut vraiment se projeter beaucoup mieux dans un environnement 3D.
Oui. D'accord. Alors, toujours pour toi, il y a des questions, je ne sais pas si tu les vois dans le chat, par exemple sur le bénéfice de faire payer des services pour le métaverse immobilier avec des tokens et via une ICO, donc point d'interrogation.
Oui, je pense qu'il y a deux phases à bien définir. Donc, c'est la phase ICO et la phase après de l'usage du métaverse quand il est déployé. Donc, la phase de ICO, c'est une vente, c'est une création de monnaie, donc du coup de jetons utilitaires. Et donc ça permet de créer ces jetons. Donc il y a forcément des avantages parce qu'il y a des discounts par rapport au round où on peut rentrer, où on peut les acheter. Donc ça c'est un avantage parce qu'on achète quelque chose avec un discount supplémentaire par rapport au prix du listing. Mais après il y a la phase 2, il y a le déploiement de la solution et il y a des échanges pour justement acheter des services dans le métaverse. Donc il faut vraiment séparer les deux phases.
OK. Alors, est-ce que vous avez des points à ajouter les uns et les autres sur ce qu'on s'est dit sur cette situation donc des NFT? Alfonso, peut-être?
Oui, alors peut-être on a utilisé beaucoup de termes. Alors, j'ai vu suite aux questions qu'on a quelques experts, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous ceux qui nous écoutent. Donc, j'avais noté deux, trois points. Par exemple, Eric, tu avais utilisé le terme mint. Voilà, donc qui est utilisé, je pense, pour les novices. Mint en anglais, ça veut dire frapper. Et donc, en règle générale, on l'utilise pour la création d'un NFT. Voilà, on va dire mint. Après, je voulais revenir aussi sur l'ICO, parce qu'on essaie toujours de faire un peu des parallèles, entre autres, utiliser ICO un peu comparé à une augmentation de capital. Alors, c'est vrai que je reviens sur l'ICO. Premièrement, on ne donne pas de part de l'entreprise, hein, donc c'est pas une augmentation de capital, c'est la vente, en gros, c'est la vente d'un droit. Et alors souvent on va utiliser, il y a différentes phases. Je vais essayer de les comparer au monde des actions traditionnelles. Dans l'ICO, on va avoir ce qu'on appelle une phase de pre-sales, voilà. Et donc le pre-sales, c'est ce qui ressemble le plus, on va dire, c'est un placement privé en réalité, hein. Comme dans les opérations financières. Et souvent, ce pre-sales va permettre de financer l'ICO, puisque la particularité aussi des ICO, c'est qu'il y a des coûts marketing, en fait, qui sont très élevés. Dans le monde, entre autres, des actions, souvent, quand il y a appel à l'épargne publique, vous voyez des bandeaux, entre autres, sur Boursorama. Voilà, et donc c'est vrai que le monde des cryptos n'utilise pas ces mêmes médias. Et ces médias sont un peu différents, puisqu'ils utilisent des médias très digitaux, que vous allez retrouver par exemple sur Telegram, qui est énormément utilisé dans le monde des cryptos, avec des groupes privés, ou entre autres avec Discord, voilà, qui est un logiciel qui paraît comme ça... Un peu à l'ancienne et qui permet de créer des entre autres des familles, gérer des boards de sujets. Et donc, tout ce marketing coûte assez cher et donc les pre-sales servent à ça. Et puis ensuite, il y a effectivement, comme l'a dit Nicolas, on passe à une phase de vente de tokens et puis on peut passer à une phase 1, à une phase 2, à une phase 3. Et j'irai pour finir, Eric, revenir un petit peu, tu avais demandé un petit peu quel était le business model, par exemple, de la métaverse avec le fameux singe. Hein. En fait, si je fais un comparatif au monde réel, c'est assez simple. La levée de fonds sert en gros à créer un espèce de musée, en réalité. Hein. Donc, il faut imaginer, et aujourd'hui, ça se crée énormément, des gens qui sont propriétaires, je dirais, d'art numérique et qui ont envie de créer leur musée. Et donc... peut-être que demain, on aura le nouveau Louvre, je dirais, en trop digital. Et pour, je dirais, faire tourner, créer un écosystème, c'est comme si on rajoutait à ce musée une galerie d'art à côté qui permet, je dirais, de valoriser ces artistes qui sont dans le musée ou en tout cas ces créations. Et effectivement, comme l'a dit Adrien, à chaque fois qu'il y a une transaction, bah, naturellement, qui dit transaction, dit possibilité de prendre des commissions. Donc, voilà le business qui, finalement, je pense qu'on a pu le voir, à chaque fois, il y a des parallèles qui sont excessivement forts avec le monde réel. Et ce qu'il faudra suivre, comme l'a dit Karima, c'est surtout la réglementation. Et donc, j'invite, parce que je pense qu'on arrive bientôt au temps imparti, et donc j'invite pour ceux qui veulent en connaître plus et voir le droit qui finalement va nous guider dans les prises de position, et donc d'aller regarder cette réglementation MiCA. Voilà, alors MiCA, c'est Marketing Crypto Assets. Voilà, et je pense qu'on devra avoir un règlement européen très rapidement qui pourra nous aiguiller sur les bonnes pratiques.
Merci Alfonso. Karima, on arrive aux conclusions, s'il y avait un message en complément de ce que vient de dire Alfonso.
Oui, oui, ben, moi effectivement, je dirais que. Comme toujours, hein, sur ces sujets-là, on vit une période qui est à la fois extrêmement riche, foisonnante, et parfois, on a l'impression de refaire réinventer l'eau chaude. Mais c'est parce qu'effectivement, il y a énormément d'imbrications, d'implications entre, encore une fois, monde réel, monde numérique. Donc, moi, je trouve que c'est une période fascinante à vivre. Il faut pas qu'en tout cas les sujets juridiques dissuadent, comme l'a dit Adrien, dissuadent des porteurs de projets de se lancer à partir du moment où on a un certain nombre de flags qui sont pris en compte, flags rouges, hein, de drapeaux rouges qui sont pris en compte et qu'on travaille sérieusement. Je pense qu'on peut tout à fait avoir du succès sur la commercialisation de ces NFT et de ces plateformes Web 3.0. C'est l'avenir pour moi.
Ok. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si Adrien a un dernier mot à dire ou Nicolas. Bon, Nicolas, il a déjà tout dit, mais peut-être Adrien.
Alors, pour être en une phrase, je pense que ça a été bien montré ici, c'est que la technologie sous-jacente a beaucoup de potentiel, c'est à nous de créer les cas d'usage. Donc on peut imaginer tous les cas d'usage de la fameuse dictature efficiente d'Orwell 1984 qui serait super sur blockchain à un monde plus vertueux qui serait incentivé par la blockchain. Et donc à nous de choisir un peu ce qu'on veut et de mettre l'énergie pour faire en sorte que la technologie soit utile et serve les intérêts et les valeurs qu'on a envie de défendre.
Bah, écoute, merci Adrien, merci à vous tous. Je vais vous donner les prochains rendez-vous du Centre des professions financières. Donc, on aura le 8 juin, donc ça sera en présentiel, un colloque sur la retraite. Le 15 juin, nous aurons Nicolas Théry, qui est le président de la Fédération bancaire française. Et le 22 juin, on reviendra à des sujets un peu similaires à ce matin, où j'aurai d'ailleurs l'occasion d'intervenir. Donc, le 22 juin, la Fédération bancaire française, en présentiel, on va parler cybersécurité, quelle réponse concrète aux nouvelles menaces. Il y aura des intervenants comme aujourd'hui de qualité et la conclusion sera faite par Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud. Voilà. Donc merci à tous, merci à nos intervenants, merci Alfonso pour la co-organisation. C'est un sujet pas simple, en tout cas pour ceux qui commencent à en entendre parler, mais je pense qu'on aura fait un bon tour et on va dire signifier plusieurs points clé. Voilà. Merci à tous. Bonne semaine et portez-vous bien. Ciao.
Merci.
Au revoir. Merci.
Au revoir.